France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
C'est une réjouissance partagée. Aujourd'hui, le président algérien a gracié Boualem Sansal, répondant favorablement à une demande de l'Allemagne, pays dans lequel l'écrivain sera transféré pour y être soigné. Détenu depuis un an, l'essayiste franco-algérien avait été condamné à 5 ans de prison pour avoir déclaré que sous la colonisation française, l'Algérie avait récupéré des territoires ayant appartenu au Maroc. Sa détention depuis le 16 novembre 2024 et sa condamnation ont représenté un élément supplémentaire dans la dégradation des relations franco-algériennes. Alors, comment comprendre cette décision d'Alger? Est-elle le fruit de pressions politiques ou du travail diplomatique? Quel lien tisser aussi, peut-être, avec une autre actualité? L'adoption, il y a 2 semaines, par les députés français d'une résolution non contraignante du Rassemblement national visant à renégocier les accords de 68 avec Alger. Pour en parler, et c'était pour parler de ce premier sujet que nous vous avions invité, Manuel Blanchard, bonsoir.
Bonsoir, Quentin Laffey.
Merci d'être là pour évoquer cette actualité. Vous êtes historien, politiste, vous dirigez Sciences Po Saint-Germain. Vous êtes l'auteur d'une histoire de l'immigration algérienne en France qui est apparue à la découverte en 2018. Et pour m'accompagner, Julien Bisson. Bonsoir, Julien.
Bonsoir, Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Bienvenue à tous les deux dans Question du soir.
Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de réagir au nom du gouvernement de la République en exprimant notre soulagement à l'annonce des autorités algériennes d'avoir gracié Boualem Sansal, et nous souhaitons qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite, être soigné, et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme.
La voix du Premier ministre Sébastien Lecornu devant les députés cet après-midi. Emmanuel Blanchard, qu'est-ce qui a présidé, selon vous, au choix d'Alger de gracier Boualem Sansal?
Si c'est complètement honnête, je vous dirais que je ne sais pas.
Merci de l'être.
Puisque nous sommes quand même dans une actualité brûlante. Mais il est évident que l'État algérien, et en particulier la présidence, voulait maîtriser le tempo. C'est-à-dire que gracier Boualem Sansal, ce n'est pas la même chose que de ne pas l'avoir condamné. Et donc, depuis un moment déjà, on avait compris que du côté algérien, il était évident que Boualem Sansal, de ce point de vue algérien, avait commis un certain nombre d'infractions au droit pénal algérien qu'ils avaient la volonté de montrer que le système judiciaire algérien fonctionnait avec une condamnation et non pas simplement une arrestation arbitraire, un appel. Et une fois que l'appel a lieu, l'État algérien, pour des raisons humanitaires, et c'est ce qu'a fait le président Tebboune, peut accepter de gracier quelqu'un qui a été condamné, mais il était hors de question de se dédire sur le fait qu'il était possible de condamner, notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire, Boualem Sansal.
Julien Bisson.
Dans cette libération, il y a une surprise. Le président Tebboune a répondu favorablement à une demande de son homologue, Frank-Walter Steinmeier. Alors on a envie de se poser cette question, qu'est-ce que l'Allemagne et son président viennent faire dans cette affaire?
On pourrait répondre de deux façons. Trianguler pour sortir de la relation bilatérale avec la France, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'Algérie, qui est un État indépendant, qui s'est construit dans un ensemble de relations diplomatiques qui ne se réduisaient pas à la relation bilatérale avec la France. Il y a aussi la volonté de parler à un homologue, et le terme ici est important. L'État algérien a toujours rappelé que sur ces questions-là, le dialogue devait se faire avec le président de la République française, comme avec d'autres présidents, et non pas avec le ministre de l'Intérieur, par exemple, et on y reviendra sans doute, je présume. Et le troisième point, je pense, il ne faut pas imaginer que l'Allemagne arrive ici comme un partenaire incongru. Il y a une longue tradition de relations avec l'Allemagne. Pendant la guerre d'indépendance algérienne, l'Allemagne a été un lieu refuge pour la Fédération de France du FLN, notamment avec un rôle très important de la jeunesse social-démocrate en Allemagne. Et je rappellerai juste 2 points. Le président allemand, il coche 2 cases d'une certaine façon pour les Algériens, c'est un diplomate. C'est quelqu'un qui a avant tout fait sa carrière comme ministre des Affaires étrangères, et ça c'est extrêmement important pour les Algériens qui veulent négocier dans un cadre diplomatique, et par ailleurs c'est un social-démocrate, et avec cette histoire longue de relations qui s'est avec les indépendantistes algériens, quand bien même le président allemand n'incarne pas cette histoire, il est trop jeune pour incarner cette histoire.
Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a dit cet après-midi que cette grâce était le fruit d'une méthode faite de respect et de calme, fin de citation. Est-ce à dire qu'elle est le fruit d'abord et avant tout d'un travail diplomatique mené en soutien bien plus que de pressions politiques qui ont été menées cette fois-ci par le ministère de l'Intérieur à plusieurs reprises au cours des mois derniers?
Je m'aventurerai sur le commentaire politique. Je pense que ici, ce qui est visé, c'est l'exfiltration de Bruno Retailleau du ministère de l'Intérieur, qui a voulu s'imposer comme l'interlocuteur fort, voire unique, dans les relations avec Alger, alors qu'Alger, depuis des décennies, cherche toujours à nouer des relations avant tout avec le ministère des Affaires étrangères, voire avec la présidence, et non pas avec le ministre de l'Intérieur. Et là, il s'est passé quelque chose qui rend compte de la complexité des relations franco-algériennes. C'est la nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur, dont chacun a pu noter, Laurent Nunez, qu'il avait une parole beaucoup plus apaisée dans ses relations avec Alger, et qui est décrite en Algérie comme une parole liée à son histoire algérienne, puisque c'est l'enfant d'émigrés français d'Algérie, d'une famille d'Oran. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on a souvent l'impression que ceux qu'on a appelés les pieds noirs sont forcément dans la nostalgie, forcément dans ce contentieux mémoriel, et les Algériens eux-mêmes savent très bien qu'il y a une partie de ceux qui sont venus en France en 1962 qui ne sont pas dans ce contentieux-là. Et la famille Nunez a été décrite en Algérie dès le début comme représentante d'une mémoire franco-algérienne qui est une mémoire faite de liens tissés, certes dans la violence de la colonisation, mais pas d'une mémoire de la rancœur. Alors que le ministre de l'Intérieur précédent, qui n'a pas de lien avec l'Algérie, a lui un rapport politique à l'Algérie qui est lié à sa vision de la nation française, une vision directement ancrée dans les... on va dire la théorie et même l'idéologie de l'action française, d'un nationalisme fermé qui s'est reconstruit, reformaté dans les décolonisations. Et c'est de cela dont était l'héritier Bruno Retailleau. Et Laurent Nunez, lui, n'a pas cet héritage idéologique, hein, mais il a des liens tissés avec l'Algérie.
Julien Bisson.
C'est donc une relation nouvelle. Cette libération de Boualem Sansal s'inscrit dans une relation tendue depuis près d'un an entre Paris et Alger. On va le rappeler, hein, le rappel des ambassadeurs des deux pays, des restrictions sur les porteurs de visas diplomatiques, des expulsions de fonctionnaires, d'influenceurs. Est-ce que cette décision de gracier Boualem Sansal un an après son arrestation peut marquer un tournant?
Encore une fois, je ne saurais pas vous répondre exactement, mais ce qui est sûr, c'est que depuis que l'Assemblée nationale française a adopté cette résolution sur les accords de 1968, depuis la nomination du nouveau gouvernement, on a bien vu que du point de vue des plus hautes autorités algériennes, qui sont notamment exprimées par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, il y avait plutôt une volonté d'apaisement et de ne pas être dans la surenchère verbale. Qu'est-ce que ça veut dire de ce qui va se passer ensuite? Je n'en sais rien. Mais il y a la volonté du point de vue des Algériens de montrer que de leur côté, il y a la possibilité de nouer un certain nombre de dialogues. Et encore une fois, ils le feront à condition que la logique de police, la logique du ministère de l'Intérieur soit débordée par autre chose. Et le problème, c'est que structurellement, en France, nous avons un ministère d'affaires étrangères qui est affaibli par rapport à d'autres ministères. Et donc, ces difficultés de dialogue, elles renvoient pas simplement, comme on le dit trop souvent, aux contentieux franco-algériens, à la mémoire aussi, et renvoie aussi à une architecture de l'État en France, où aujourd'hui on a un ministère des Affaires étrangères qui est un ministère faible, et ça pour les Algériens, ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de négocier que d'État à État, de présidence à présidence, et non pas de ministère à ministère.
Alors vous l'avez mentionné, hein, cette autre actualité, la résolution sur l'accord de 1968 proposée par le Rassemblement National, adoptée par les députés. Je voudrais vous faire entendre la voix de Marine Le Pen, députée, et elle s'exprimait sur la chaîne parlementaire le 4 novembre dernier.
Monsieur le Premier ministre, le 5 juillet 1962, l'Algérie prenait son indépendance. Le 30 octobre 2025, la France affirmait enfin la sienne. Après 57 ans d'un accord anachronique, peu glorieux pour l'Algérie et léonin pour la France, il était temps de purger les reliquats d'une situation coloniale. Les patriotes algériens devraient se réjouir de notre vote, puisque rien n'a jamais justifié qu'un grand pays comme l'Algérie ne soit pas traité par la France comme tous les autres pays du monde et se retrouve dans la situation humiliante de bénéficier d'une sorte de régime de discrimination positive de la part de l'ancienne puissance coloniale. L'Assemblée nationale française est également venue mettre fin à un accord dicté en son temps par un certain patronat sans scrupules qui cherchaient à disposer d'une main-d'œuvre venue d'ailleurs pour travailler à bas prix dans des conditions, bien souvent peu reluisantes.
On vous fera réagir à ce discours, à l'analyse de ce discours, Emmanuel Blanchard, mais un mot avant cela. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre l'adoption de ce projet de résolution appelant à dénoncer l'accord migratoire franco-algérien de 1968 et la grâce, aujourd'hui, de Boualem Sansal ?
Difficile d'y répondre avec certitude, mais il est évident que, d'une certaine façon, cette résolution qui est le fruit de cette rancœur mémorielle et xénophobe, d'une certaine façon, certains ont dit algérophobe, ouvre d'une certaine façon une fenêtre d'opportunité, puisque ça ouvre la possibilité pour les Algériens de montrer que eux ils se placent dans un cadre qui est le cadre de leurs institutions, c'est-à-dire que la possibilité de faire une grâce, et que maintenant, ils peuvent répondre, mais dans des cadres qui sont les cadres ajustés. L'Assemblée nationale n'a rien à voir avec cette convention, c'est une de 68. Là, la résolution, c'est de la politique franco-française. Mmh. C'est d'une certaine façon un signal adressé à l'opinion publique, mais ce n'est pas du tout un moyen de nouer un quelconque dialogue avec l'Algérie.
Julien Bisson.
On a entendu le discours de Marine Le Pen. Elle parlait de cet accord migratoire franco-algérien de 1968 comme un régime de discrimination positive pour les immigrés algériens. Alors, pour qu'on arrive à comprendre un petit peu ce qu'elle veut dire, pour essayer d'analyser son discours, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'a été véritablement cet accord migratoire ?
Oui, merci pour votre question. Toujours compliqué d'analyser le passé dans les mots du présent, en particulier quand les mots du présent sont utilisés à contresens, comme le fait ici Marine Le Pen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les accords de 1968, ils sont le fruit avant tout des accords d'Évian de 1962. Les accords d'Évian de 1962, qui sont des accords qui doivent permettre un cessez-le-feu, qui doit mener à l'indépendance de l'Algérie, avaient été négociés dans un cadre où les deux États français et le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, devait tenir compte du fait qu'en France, il y avait environ 350 000 Algériens, que beaucoup de Français auraient voulu voir repartir à cette époque-là, en tout cas dans les dans une partie des élites politiques, et que de l'autre côté, il y avait en Algérie encore près d'un million de ceux qu'on appelait les Français d'Algérie, qui s'appelleraient les Pieds Noirs, et que l'État français ne voulait pas voir revenir. Et donc, les accords de 1962, l'accord d'Évian, il ne se joue pas avant tout sur cette question-là, mais il y a aussi cette question-là. Et cette question-là, c'est si on veut préserver des droits aux Français d'Algérie, il faut donner des droits aux Algériens en France. Et d'une certaine façon, ces accords prévoient quelque chose qui, à l'époque, n'est pas complètement dérogatoire. Loin de là, c'est un autre monde, 1962. 1962, quasiment personne n'a besoin de visa pour venir en France. Là, on vit dans un monde qui n'est pas le monde actuel. Et ce monde de 1962, eh ben, il est possible pour les Algériens d'obtenir la liberté de circulation et d'installation en France, et à peu près les mêmes droits que les Français quand ils sont en France, sauf les droits politiques. Et donc ça, c'est un statut spécifique pour les Algériens qui est dérogatoire à plein d'égards, mais dans une époque qui n'est pas notre époque.
Donc entre 62 et 68, Algériens et Français peuvent circuler librement entre les deux pays ?
Alors ça, c'est la théorie. Il y a une histoire longue qu'on peut pas résumer en quelques mots, mais qui est l'histoire des circulations entre la France et l'Algérie, qui commence à une époque où l'Algérie, c'est la France. Et quand je dis l'Algérie et la France, je pourrais mettre des guillemets, mais c'est institutionnellement trois départements français. Et les Algériens qui étaient victimes d'une oppression coloniale, d'expropriation, d'exploitation, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, ont quand même, dès le tournant du XXe siècle, quand ils ont eu leur premier représentant politique, qu'ils ont cherché à obtenir, c'est dire, puisque nous sommes Français, puisqu'ils l'étaient du point de vue de la nationalité, nous devons pouvoir traverser la Méditerranée librement.
Alors pourquoi repenser justement un accord ? Pourquoi en 1968, dans un contexte nouveau, vous allez nous le décrire, établir un nouvel accord entre la France et l'Algérie ?
Tout simplement parce que les anticipations de 1961-62, puisqu'on est sur des négociations sur le temps long, ne se sont pas vérifiées. Les Français pensaient que les autorités françaises pensaient que les Français d'Algérie très majoritairement resteraient en Algérie. Et du fait, avant tout, de la violence incroyable des attentats de l'OAS, une grande partie de ces Français d'Algérie qui ne se sentent pas non plus totalement désirables dans le nouvel État algérien, et puis qui d'une certaine façon n'ont aucune raison de rester, parce que s'il n'y a plus de situation coloniale, s'ils n'ont plus d'avantages par rapport au reste de la population, pourquoi rester en Algérie? Il y a tout un ensemble de personnes qui politiquement se plaçaient dans des perspectives d'égalité qui sont restées, minoritaires mais qui sont restées, et donc il y a une grande émigration qui est étudiée par tous les spécialistes d'émigration dans le monde, parce que c'est un mouvement très rapide, près d'un million de personnes qui débarquent en quelques semaines.
Et qui permet de faire de très belles études économétriques, notamment.
Exactement. Qui débarquent en quelques semaines. Et donc, à peine les accords sont-ils signés, que la situation n'est plus la même. Et la situation n'est plus la même non plus, parce que l'État algérien, lui, de son côté, a besoin, même si du point de vue de son indépendance nationale, il aimerait qu'une partie de ses émigrés rentrent, l'appareil productif algérien et la démographie algérienne font que l'émigration reste une nécessité. Or, les Français, dès 63, cherchent à la freiner, à tout prix. Ils cherchent à la freiner en remettant en cause, en 64, l'immigration familiale, en organisant des retours forcés qui peuvent pas s'appeler expulsion, mais qui s'appellent rapatriement, en essayant déjà de traiter les Algériens comme des étrangers comme les autres. Ils n'ont pas les supports juridiques pour le faire, ou pas tous les supports juridiques pour le faire, mais l'histoire longue de cette relation franco-algérienne, c'est une histoire de statuts qui apparaissent privilégiés, mais qui, dans les faits, fourbissent tout un ensemble de discriminations.
Julien Bisson.
Alors, en vous écoutant, on comprend que cet accord migratoire de 1968 n'est pas un accord qui favorise l'immigration, mais au contraire, qui restreint la circulation. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression? Pourquoi est-ce qu'il est présenté, imaginé comme tel?
Bah parce que la plupart des commentateurs le lisent avec leurs lunettes du 21e siècle. Cet accord de 1968, c'est en quelque sorte un accord de rééquilibrage. Encore une fois, la situation entre la France et l'Algérie s'était très, très largement dégradée, notamment, pour tout un tas de raisons, notamment parce que le ministère de l'Intérieur se remettait à contrôler les Algériens comme des étrangers, d'une certaine façon, avec un certain nombre d'humiliations, c'est le terme qu'on trouve dans la presse algérienne à l'époque, subie notamment dans les aéroports. Et pour sortir de cette situation, Algériens et Français disaient, on va être obligé de se remettre à la table de négociation et on va essayer négocier. Effectivement, on sera plus dans les termes exacts des accords d'Évian. On va être dans des négociations sur des contingents de main-d'œuvre avant tout. Mais au moins, on va négocier au-delà des questions de police, on va aussi négocier les questions de travail, les questions sociales. Et ça, ces accords sont cette marque-là. Mais effectivement, par rapport à... C'est une situation qui est beaucoup moins favorable que la situation de 1968, mais parce que les négociations ne se placent pas dans les mêmes termes, même si, pour les Algériens, avoir été en capacité de renégocier un accord d'État à État, c'est une manière de voir reconnaître leur État, une nouvelle fois, qui est en capacité de négocier des accords avec l'ancienne puissance coloniale.
Si j'en reviens, Emmanuel Blanchard, au discours contemporain, aux lunettes du 21e siècle, comme vous les appelez, il y a une idée tenace selon laquelle ces accords de 1968 sont avantageux pour les Algériens. Je reprends l'expression de Marine Le Pen, ce serait de la discrimination positive en faveur des Algériens. Que disent les textes? Est-ce qu'effectivement, j'allais dire en comparaison d'autres nationalités, d'autres flux migratoires, est-ce que les Algériens sont favorisés dans l'accession au territoire français?
Alors déjà, ces accords de 1968, aujourd'hui, ce sont des accords de 2001, parce qu'ils ont été révisés à trois reprises. Ils ont été révisés
trois avenants.
En 1984, et la dernière fois en 2001, 1984, 1995 et 2001. Donc on n'est plus du tout dans la situation de 1968.
Trois avenants d'ailleurs qui sont venus amoindrir à chaque fois ces spécificités.
En 1984, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en 1984, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Nous sommes dans le dernier moment où des textes sont pris qui favorise un petit peu la reconnaissance d'un statut des immigrés, notamment avec la reconnaissance de ce qu'on appelle la carte de 10 ans, et qui va aussi être intégrée dans l'accord migratoire avec les Algériens, d'une certaine façon. C'est un certificat de 10 ans, et non pas une carte. Donc en 1984, nous sommes sur une période qui est encore assez balancée. À partir des autres révisions, les deux qui ont eu lieu et celles qui n'ont jamais abouti, l'idée, c'est ce qu'on trouve dans le rapport parlementaire que vous avez, dont tout le monde a entendu parler, qui dit L'égalité, c'est que tous les étrangers soient placés au même niveau, d'un niveau de droit dégradé. En gros, c'est ça. C'est une vision de l'égalité qui est défendue dans ce type de rapport. Donc déjà, on peut être critique de cette vision de l'égalité. Et il y a un second point sur lequel il faut quand même s'interroger, c'est pourquoi les Algériens devraient être traités comme des étrangers comme les autres. Les Algériens ne sont pas des étrangers comme les autres. Les Algériens ont été colonisés pendant 130 ans. Ils n'ont eu que la nationalité française entre 1865 et 1962. Il n'y a pas tant d'étrangers qui sont des étrangers, qui n'ont pas eu le choix d'avoir la nationalité française et qui un jour ne sont plus, n'ont plus été français.
Il y a un concept qu'il faut peut-être aborder maintenant, Emmanuel Blanchard, c'est celui de citoyenneté réparative. Qu'est-ce qu'il signifie et pourquoi vous semblez vouloir peut-être l'appliquer justement à cette relation franco-algérienne ?
Alors, le concept de citoyenneté réparative, il s'applique plutôt à la reconnaissance de la nationalité en fonction de torts subis dans l'histoire. C'est un concept qu'on va qualifier d'académique avant tout, mais et qui circule peu dans la sphère politique. Là où ce concept devient intéressant, c'est qu'il faut essayer de comprendre comment, pendant très longtemps, les politiques d'immigration ont été envisagées. Elles ont été envisagées comme une logique qui était une logique économique, une logique démographique, une logique policière et une logique diplomatique. Et aujourd'hui, la logique qui a pris le pas sur toutes les autres, c'est la logique policière. Et c'est ça que refusent les Algériens. Même si, dans les faits, justement, parce qu'ils subissent très fortement cette logique policière, parce qu'ils ont des textes qui sont plutôt, parfois, un peu favorables en droit, mais pas tout le temps. Hein. Et en même temps, ces textes ne sont pas appliqués, puisque c'est la logique policière qui s'applique. Et cette politique d'immigration, normalement, elle doit être pensée dans un état de droit, en concordance avec un certain nombre de conventions et des textes internationaux relatifs aux droits fondamentaux. Et là où ça permet de commencer à réfléchir, c'est se dire, puisque pendant, faut imaginer qu'au moins jusqu'au milieu du XXe siècle, les politiques d'immigration, elles sont régulées par des conventions. Il y en a encore plein. Il n'y a pas que la convention franco-algérienne. Elles sont pas régulées par des textes internes simplement. Mmh. Et ces textes, ils sont généralement le fruit notamment de visions diplomatiques qui sont liées à l'histoire et ou qui permettent des mécanismes de reconnaissance aussi, d'une certaine façon. Et que les Algériens aient un statut qui soit un statut à part, d'une certaine façon, ça pourrait être simplement la juste reconnaissance du fait qu'ils ont été français pendant très longtemps, qu'ils l'ont été dans des conditions qui ont été des conditions de tort subi, de discrimination, et que, a posteriori, les traiter comme des personnes qui ne soient pas tout à fait des étrangers comme les autres, ainsi que le prévoyaient les accords d'Évian, c'est pas une logique qui vient contrecarrer l'égalité, c'est une logique qui permet de reconnaître un passé qui a un passé singulier.
Julien Bisson.
Concrètement, l'existence de cet accord migratoire, et donc son éventuelle remise en cause aujourd'hui, a-t-il eu un impact important sur la nature de l'immigration algérienne, sur les flux d'immigrés qui ont pu arriver en France ?
Si je répondais un mot, je dirais non. Tout simplement, au contraire de ce qui est dit dans ce rapport parlementaire. Pourquoi les Algériens sont les plus nombreux en France aujourd'hui ? La communauté algérienne, mais c'est pas une communauté complètement unie, très loin de là, ça tient avant tout à l'histoire. On a une immigration qui est une immigration qui s'est déployée sur plus d'un siècle. Il y a très peu de cas d'immigration qui se sont déployés sur plus d'un siècle. On a le cas des Italiens, mais aujourd'hui l'immigration est tarie, alors que l'immigration algérienne n'est pas tarie. Et c'est ça qui fait que c'est la communauté la plus nombreuse aujourd'hui. C'est pas les textes de droit, c'est que dès les années 1920, il y avait des milliers de mariages dits mixtes en métropole. Et tout ça a tissé des liens qui sont certes des liens dans la violence de la colonisation, mais qui sont des liens familiaux, qui sont des liens professionnels, qui sont des liens commerciaux, qui font que des tas de gens ont des vies qui se déploient sur les deux rives de la Méditerranée. Personne ne parle des Marocains en disant ils sont nombreux parce qu'ils ont un accord favorable. Mais les Marocains aujourd'hui, alors que démographiquement ils sont moins nombreux, que l'immigration a commencé beaucoup plus tard, les Marocains sont presque aussi nombreux que les Algériens. Et donc c'est bien la preuve que c'est pas l'accord qui a favorisé une immigration relativement importante. C'est l'histoire et les effets qui font que il y a très peu de pays qui se sont orientés avec une immigration vers un seul autre pays. C'est le cas de l'Algérie vers la France pendant très longtemps. Et tout simplement, ça c'était lié au fait que, encore une fois, les départements, l'Algérie, c'était des départements français.
Trois départements français. Julien Bisson encore.
En très court, si cet accord migratoire ne sert à rien, pourquoi est-ce qu'il est à ce point combattu par l'extrême droite, défendu par la gauche? Pourquoi est-ce que c'est un totem politique?
En quelques mots, Emmanuel Blanchard.
Alors, il ne sert pas à rien, mais c'est une obsession pour l'extrême droite et cette partie de la droite. On peut penser à la famille Tabarot, notamment à LR, qui vit dans la rancœur des décolonisations et qui pense qu'il faut abattre tout ce qui est synonyme et symbole de ce mouvement d'indépendance. Et cet accord de 1968 est le fruit de ce mouvement d'indépendance.
Merci beaucoup Emmanuel Blanchard, historien politiste, vous dirigez Sciences Po Saint-Germain. L'auteur d'une histoire de l'immigration algérienne en France, c'était la découverte, c'était en 2018. Un double merci pour avoir répondu justement sur ce sujet de la convention de 1968 et pour avoir évoqué le cas Boualem Sansal. Julien Bisson, dans l'hebdomadaire Le 1, qu'est-ce que l'on trouve cette semaine?
Eh bien, on se pose la question, modèle social, comment le réinventer? Il faut notamment déplier un poster illustré géant et totalement inédit sur les dépenses publiques pour enfin tout comprendre au débat budgétaire.
Et quatre merci à Bruno Barada, Roxane Poulain, Bertie Bourdon qui ont pensé préparer cette émission et Léa Racine à la réalisation ce soir.